Bonjour à tous. Vous avez sans doute entendu parler cette semaine de Rachid Kassim, ce Français qui, depuis la Syrie, commandite des attentats en France. Mais il en existe un autre, au profil tout aussi inquiétant. Il s'appelle Fabien Klein. C'est la voix française de Daesh. C'est lui qui a revendiqué les attentats du 13 novembre. Avec Élodie Guéguin, nous allons voir quel est son parcours. Bonjour Élodie.
Bonjour Jacques.
Et puis dans un deuxième temps, nous recevrons Julie Braffman. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous venez de publier un livre sur l'aveu, ce qu'il veut dire, comment on l'obtient. On en parle donc aussi tout à l'heure avec vous.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Fabien Klein, c'est quelqu'un qui pouvait convertir des centaines et des centaines de personnes. Pour moi, c'est l'homme le plus dangereux aujourd'hui parce qu'il sait endoctriner des gens et parce qu'il est en Syrie.
Ses propos sont ceux d'une avocate qui défend des familles de victimes du terrorisme. Elle parle donc de Fabien Klein. Mais avant de vous raconter son itinéraire, en quelque sorte, il nous faut d'abord évoquer quelqu'un d'autre qui lui aussi a semé l'horreur. C'était à Toulouse. C'était en 2012 et cet homme, Élodie Guéguin, c'est Mohamed Merah.
Oui, Mohamed Merah, le tueur au scooter qui a froidement abattu des militaires et des enfants juifs. On peut se demander en effet si les germes de toutes les affaires de terrorisme que la France a connues ces dernières années, si ces germes n'ont pas été plantés à Toulouse dans les années 2000. Mohamed Merah n'était pas forcément le loup solitaire qui se serait radicalisé seul derrière son écran. Il fréquentait déjà des extrémistes qui ont basculé dans le terrorisme et notamment Fabien Klein.
Il y aurait donc, c'est ce que vous nous dites, un lien même indirect entre Merah et les attentats qui ont suivi. Et vous avez trouvé une preuve de ça ?
Oui, une lettre que nous nous sommes procurée, une lettre écrite par Klein à Merah en 2009. Ce courrier, écrit en français et en arabe, est bourré de références religieuses qui laissent penser que Klein a pu être une sorte de guide spirituel pour le jeune Toulousain. Écoutez plutôt ce qu'il dit à Merah.
C'est vraiment une grâce d'Allah de nous avoir guidés à la vérité. Ô Allah, apaise le cœur de Mohamed. Réjouis-toi de savoir que ton Seigneur a préparé un paradis immense pour ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres.
Alors ça, c'est donc ce que Fabien Klein dit à Mohamed Merah. On est 3 ans avant les attentats de Toulouse. Et malgré ça, dans l'enquête sur l'affaire Merah, Klein n'a jamais été inquiété.
Non, il y a bien eu des investigations menées sur les Klein, mais elles n'ont pas été très poussées. Fabien Klein n'a même pas été auditionné, entendu par les juges. C'est pourtant ce que réclamait l'avocate Samia Maktouf, qui est partie civile dans le dossier Merah. Forcément, aujourd'hui, elle est très amère.
Je regrette que l'instruction dans l'affaire Merah ne soit pas allée plus loin. Je regrette que Fabien Klein n'ait pas été entendu avant qu'il ne quitte la France. Je l'ai demandé, ça m'a été refusé. On a considéré que ce n'était pas une priorité. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était plus qu'une priorité.
Oui, la justice n'a donc pas approfondi les liens entre Merah et Fabien Klein. En revanche, des journalistes l'ont fait.
Oui, en 2013, une enquête de France 3 révèle que les deux Toulousains, Klein et Merah, font partie d'un même réseau. Et à cette époque-là, Klein vit en Normandie où il délivre des cours d'arabe à des enfants et il s'insurge d'être présenté comme un proche de Merah, comme nous le raconte le journaliste Vincent Ventighem.
Dans l'institution où il donne ses cours d'arabe, il est un peu pointé du doigt et il décide d'appeler son avocat pour dire « Non, c'est totalement faux, je veux déposer une plainte en diffamation, je veux attaquer France Télévisions pour la façon dont ils m'ont présenté. » Et il me dit notamment « Moi, j'ai découvert les tueries de Mohamed Merah à la télévision, je n'étais pas au courant et aujourd'hui, je suis pointé du doigt, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, laissez-moi vivre tranquillement, normalement. »
Oui, laissez-moi tranquille, c'est donc en substance que dit Fabien Klein à ce journaliste de 20 minutes. Et Fabien Klein, lui, met sa menace à exécution, il poursuit en justice France Télévisions.
Oui, il dépose une plainte en 2013 et le procès devait se tenir fin 2015. Sauf qu'entre-temps, le masque est tombé, Fabien Klein a rejoint les rangs de l'État islamique. D'où cette situation complètement surréaliste, racontée par Vincent Ventighem.
5 jours après les attentats exactement du Bataclan, des terrasses et du Stade de France, une audience est prévue devant la 17e chambre du palais de justice de Paris. L'audience, c'est Fabien Klein contre Rémi Pfimelin, l'ancien directeur de France Télévisions, pour diffamation. Il s'avère qu'à ce moment-là, Fabien Klein est en Syrie et il vient de revendiquer les attentats du Bataclan. C'est une situation totalement ubuesque, en fait, où quelqu'un qui voulait laver son honneur et se défendre d'être un terroriste apparaît comme étant la personne qui revendique les derniers attentats qui ont ensanglanté la France.
Oui, donc c'est désormais une évidence, cette fois aucune ambiguïté. Fabien Klein est donc bel et bien un djihadiste.
Secret d'info sur France Inter.
Alors essayons de voir plus en détail, Élodie, maintenant justement, comment Fabien Klein est devenu ce terroriste si redouté. Qu'est-ce qu'on sait de son parcours? Qu'est-ce qu'on sait de son histoire?
C'est une histoire très étonnante, hein, vous allez l'entendre. La famille Klein est originaire de l'île de la Réunion. Fabien naît en 1976, il grandit en métropole, dans le tranquille département de l'Orne. Les Klein sont catholiques, ils sont même de fervents catholiques. La mère dispense des cours de catéchisme et les enfants vont à la messe tous les dimanches.
Fabien Klein est catholique et pourtant, à l'âge de 18 ans, il va se convertir à l'islam.
Oui, et pour comprendre ce processus de conversion, j'ai rencontré l'un de ses meilleurs amis, l'un de ceux qui connaît le mieux son histoire. Il nous raconte qu'à 18 ans, Klein a eu un véritable déclic qui l'a poussé à changer de religion.
Il commence à lire la Bible, etc. Et à un moment, il prend l'Ancien Testament et il voit que dans la Bible, il est écrit que la femme doit porter un voile sur elle. Donc il va voir son prêtre et il pose la question au prêtre. Et le prêtre, il lui dit non, il faut vivre avec son temps. Donc lui, il se pose la question, comment ça il faut vivre avec son temps? Je comprends pas en fait. La Bible de maintenant, c'est la même Bible. Pourquoi on devrait changer la parole de Dieu? Pourquoi on devrait changer? Il a lu le Coran, il a vu que le Coran c'était la même chose depuis 1400 je ne sais combien d'années. Et comment se fait-il que nous, chrétiens, on a changé, on a transformé notre Bible et que les musulmans, eux, ils pratiquent mieux notre Bible que nous?
Ouais, en fait, le Coran le séduit parce qu'il est fidèle, donc, à ses yeux, à l'islam originel. Il devient donc musulman et sa nouvelle religion, Fabien Klein, va la pratiquer avec beaucoup de ferveur.
Oui, il est très exalté et ce qui est complètement fou, c'est qu'il va parvenir à convaincre presque tous ses proches de se convertir à leur tour. Sa petite amie, son frère Jean-Michel, sa demi-sœur, sa cousine et même sa mère.
Cette même mère qui avait pourtant élevé ses enfants dans la religion catholique?
Absolument. Fabien Klein va jouer auprès d'elle un rôle quasi mystique. Son ami nous raconte cet épisode qui a servi de déclencheur.
Sa mère était très malade, elle avait des gros problèmes aux genoux, etc. Elle ne pouvait pas marcher. Et un jour, il va prier la prière du matin, il va à la mosquée, là, il est rentré chez lui. Il dit, maman, voilà, je vais te réciter un verset coranique, mais il a commencé à poser sa main sur le genou de sa mère et il a vu sa mère en train de pleurer, sa mère, elle s'est levée. Et sa mère a se converti à l'islam.
Oui, c'est un peu lève-toi et marche, hein, transposé à l'islam. Il se serait donc produit dans la famille une sorte de miracle. Bon, en tout cas, à partir de là, beaucoup de choses vont changer.
Oui, parce que les Klein se mettent à pratiquer un islam très rigoriste pour Fabien et son frère Jean-Michel, terminer les sorties et les bêtises de gamins, terminer aussi leur groupe de rap.
Et la métamorphose ne s'arrête pas là, Élodie, puisqu'ils vont aussi changer de nom.
Oui, Fabien devient Omar, Jean-Michel se fait appeler Abdelwali, les deux hommes se marient religieusement, leurs épouses sont des Normandes, rencontrées sur les bancs de l'école, elles sont toutes les deux catholiques et toutes les deux converties.
Alors tout ça, Élodie, ça se passe donc, on est à la fin des années 90, hein, on est à Alençon, mais ensuite, brusquement, toute la famille déménage à Toulouse.
Fabien Klein s'en expliquera d'ailleurs plus tard devant le juge antiterroriste Marc Trévidic. Il dira, je le cite, « Il devenait trop difficile pour nos femmes, entièrement voilées, de vivre dans une petite ville comme Alençon. »
Ouais. Cela dit, à Toulouse, il ne passe pas non plus inaperçu.
Christophe Rouget se souvient surtout des femmes de la famille Klein. Le porte-parole du syndicat des cadres de la sécurité intérieure était à l'époque officier de police à Toulouse.
Il détonnait à l'époque, puisqu'ils portaient la djellaba, leurs femmes étaient couvertes de voile intégrale et donc on a appelé le clan des Klein le clan Belphégor. Ce qui est caractéristique dans l'histoire des frères Klein, c'est d'abord cette fratrie, mais aussi leurs épouses respectives, qui avaient vraiment une attitude par rapport à la police, de prosélytisme pour la religion, elles disaient qu'elles étaient dans le vrai. Voilà, elles étaient vraiment dans un discours très fanatisé, et je crois qu'elles sont conservées comme leur mari jusqu'à aujourd'hui.
Oui, ce discours très fanatisé, Élodie, les Klein vont le diffuser autour d'eux.
Oui, parce que Fabien Klein, on va le retrouver sur les marchés, il va vendre des objets islamiques, des vêtements, des livres de théologie et des cassettes de prêches.
Oui, il ne fait pas que vendre, d'ailleurs, il fait aussi un peu de propagande, hein, on va dire.
Oui, il dira même devant des juges que le prosélytisme est son activité favorite. Il était un prêcheur et à chaque fois, son discours faisait mouche, nous confirme celui qu'il considérait comme son meilleur ami.
En fait, ils débattaient toujours. C'était des débats chrétiens-musulmans ou débats athées. Est-ce que t'es athée? Est-ce que t'es athée convaincu, etc. C'était quelqu'un qui avait, je sais pas, moi, il a étudié un peu toutes les religions. Il pouvait débattre avec un chrétien, il pouvait débattre avec un juif, il pouvait débattre avec un bouddhiste. Il avait une éloquence, faut dire ce qu'il avait, une éloquence qui pouvait retourner qui que ce soit. Quoi.
Ouais, il pouvait retourner qui que ce soit, c'est lourd de sens. Hein. Élodie, ça veut dire qu'il pouvait en fait convertir n'importe qui.
Le beau-frère de Mohamed Merah disait même de lui, je vais le citer, Fabien peut convaincre n'importe quel mécréant que Dieu existe, et cela en seulement quelques minutes de discussion, ça veut tout dire.
Alors comment expliquer un tel pouvoir de persuasion ?
Alors ça peut s'expliquer par son physique. Hein. Fabien Klein est un colosse, une force de la nature, 1m88, il pèsera jusqu'à 160 kg, mais ce n'est pas l'essentiel, son arme principale est tout autre, selon Jean-Manuel Escarneau, correspondant du journal Libération à Toulouse. Il a observé pendant plusieurs années celui qui se faisait appeler Omar.
Tous les gens que j'ai rencontrés qui ont été en contact avec Omar Klein disent la même chose, c'est quelqu'un de très convaincant, qui n'est pas agressif, qui ne force pas les gens, qui est très doux, qui a un discours très bien construit, qui met en valeur ceux avec qui il parle, qui est toujours disponible pour rendre service. Et en plus, il est intelligent, il parle l'arabe couramment, qui connaît la médecine prophétique. Donc Omar Klein, c'est le savant en bas de l'immeuble. Et en plus, à la différence de l'imam de la mosquée qui soit ne parle pas le français, soit est trop vieux, soit est un peu chiant, Omar Klein, il a 22 piges, il comprend parfaitement tout ce qui se passe et il a un discours qui passe très bien avec les jeunes. Voilà, Omar Klein, c'est ça.
Ouais, c'est comme ça que Fabien Klein, alias Omar, donc, devient peu à peu le grand frère des jeunes des quartiers.
Oui, et ça, on en prend véritablement conscience à l'automne 2005, lorsqu'à Toulouse, comme ailleurs, des quartiers entiers s'embrasent. C'est ce qu'on a appelé les émeutes de banlieue. Le journaliste Jean-Manuel Escarneau observe qu'à ce moment-là, la petite bande autour des frères Klein est très active dans les cités.
Au moment des émeutes, je vois Jean-Michel, je vois d'autres gars qui viennent vers les émeutiers dans la journée, qui distribuent des tracts en arabe et en français et qui expliquent à ces jeunes émeutiers qu'il ne faut pas brûler les voitures des voisins, que ce n'est pas comme ça qu'on obtient les choses, mais que plutôt il faut revenir à la religion.
Aller dans le droit chemin, c'est le chemin de la mosquée. En fait.
C'est le chemin de la mosquée, c'est pas que de la mosquée, c'est le chemin des appartements déjà du Mirail où ils se sont installés. Où là, le discours qui tient à ces jeunes, c'est un discours déjà qui leur dit on vous dit que vous êtes des mômes perdus, mais en fait non, vous n'êtes pas des mômes perdus, vous êtes des élus de Dieu. Et après, à côté de ça, c'est un discours franchement politique, donc c'est basique. Hein, c'est les Américains, les Israéliens, c'est des koufars, c'est des mécréants. Regardez ce qu'ils font à nos frères palestiniens, regardez ce qu'ils font à nos frères afghans. Quand c'est que vous allez comprendre que ça vous concerne et qu'il faut réagir.
Oui, si on résume Élodie, derrière un discours du genre « il ne faut pas brûler les voitures », il y a un autre discours qui, lui, peu à peu, va mener les jeunes au djihad.
Oui, car on s'aperçoit que Klein n'est pas seulement ce prêcheur exalté qui prône un islam rigoriste. Il y a derrière son apparence pacifique un homme qui glorifie déjà le djihad et les actions suicides et qui d'ailleurs fait circuler des vidéos de propagande d'Oussama Ben Laden.
Et qui va encore plus loin puisqu'il va ensuite constituer une filière djihadiste. C'est ce qu'on a appelé la filière d'Artigat.
Oui, alors Artigat, Jacques, c'est un petit village de l'Ariège où s'est établi un certain Olivier Corel qu'on a surnommé l'émir blanc. C'est un réfugié politique syrien connu pour ses prêches salafistes et son discours pro-djihad. Chez lui, la famille Merah y a ses habitudes, tout comme Fabien Klein qui y vit un an.
Et qu'est-ce qu'il y fait, là, Fabien Klein, dans cette filière ?
Alors, officiellement, il organise des week-ends de remise en forme pour ses amis, avec boxe et footing au programme, mais on va s'apercevoir qu'en fait, il galvanise et il forme des jeunes qui partiront faire le djihad en Irak. Certains Toulousains n'en reviendront jamais.
Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que finalement Fabien Klein sera arrêté.
Arrêté puis condamné à 5 ans de prison ferme. Dans son jugement, le tribunal insiste bien sur la dangerosité de Klein. Écoutez cet extrait.
Il importe peu que Klein n'ait pas été trouvé en possession d'armes, d'explosifs ou de faux documents. Il a eu une activité positive en insinuant dans les esprits des croyants qu'il conseillait les bienfaits du djihad, en les conditionnant, en profitant de son aura.
Il est donc condamné, il est envoyé en prison, mais en fait ça ne va pas changer grand-chose parce que là aussi, il continue à faire du prosélytisme.
Oui, et pour ça il va profiter du mode de fonctionnement de la prison. On est là au centre de détention de Mont-de-Marsan. Klein bénéficie de ce qu'on appelle un régime de confiance, il n'est pas particulièrement surveillé et il peut côtoyer les autres détenus du matin au soir.
Ce qui évidemment lui laisse toute latitude pour prêcher auprès de ses co-détenus.
Oui, il organise même dans sa cellule des prières pour les prisonniers et à son contact, certains détenus changent radicalement. Le surveillant Fabrice Colony du syndicat FO Pénitentiaire s'en souvient bien.
Fabien Klein était quelqu'un qui recrutait, ça c'est clair. On voyait certaines personnes changer physiquement. C'est une tenue vestimentaire qui change du jour au lendemain. C'est des pratiques religieuses qui changent. Des repas aussi qui changent. C'est à base de halal. Mais c'est plein de petits éléments qui, bout à bout, on constate effectivement que l'individu a basculé.
Alors là, on se pose une question, Élodie, parce qu'il va se passer quelque chose d'assez étonnant. On a vu que la justice dit qu'il est dangereux, hein, on l'a entendu. En prison, il continue à faire du prosélytisme. Et pourtant, on va lui permettre de sortir avant même la fin de sa peine.
Oui, alors ça peut paraître insensé aujourd'hui, mais Klein était considéré comme un détenu modèle. Plusieurs surveillants me l'ont confirmé. Il était poli, serviable et il n'a eu aucun mal à bénéficier d'une remise de peine.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
On a parlé de la capacité de Fabien Klein à convertir, à recruter, à convaincre, mais tout ça, ça se passe en France. Or, ce qu'il faut aussi préciser, Élodie, c'est que Klein a également tissé sa toile à l'étranger.
Oui, parce qu'il a beaucoup voyagé, notamment en Belgique, où il était fiché, surveillé dès le début des années 2000. Fabien Klein a vécu pendant un an à Bruxelles avec sa famille. Il a fréquenté des mosquées d'Anderlecht, des centres islamiques de Molenbeek. C'est vraiment là que se sont constitués les réseaux djihadistes franco-belges, comme ceux que l'on a vus à l'œuvre le 13 novembre.
Oui, Molenbeek, c'est un nom qui résonne effectivement, et c'est assez incroyable finalement de voir encore comment les choses sont connectées. Alors ça, c'était pour la Belgique, mais Fabien Klein et son frère ont aussi vécu en Égypte.
Ils ont fréquenté les écoles coraniques du Caire, et on se rend compte aujourd'hui que de nombreux djihadistes francophones que l'on retrouve dans des affaires de terrorisme sont passés par la capitale égyptienne, qu'ils y ont créé des réseaux. Mais ça, Jacques, on en prendra seulement conscience après le 22 février 2009.
Un groupe d'adolescents français victimes d'un attentat hier au Caire. Attentat qui a coûté la vie à une jeune fille de 17 ans.
Voilà ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait du journal de 20h de TF1. Une Française, jeune Française, vient d'être tuée. C'est un attentat, donc c'est en Égypte. Et là encore, Élodie, l'ombre de Fabien Klein n'est pas très loin.
Oui, car il faut savoir qu'après l'attentat, les Égyptiens ont arrêté des suspects, notamment un homme, un Belge, un certain Farouk Ben Abbès. Cet homme se trouve être un intime des Klein. Il sera finalement mis hors de cause. Mais ce qui est très troublant, Jacques, c'est que les services égyptiens assurent à la justice française que Ben Abbès avait le projet de commettre un attentat en France, et parmi les cibles citées par les Égyptiens, il y a le Bataclan.
Oui, alors ça aussi, c'est très troublant également. On évoquait donc déjà le Bataclan en 2009, et quelle suite a-t-on donné à cette affaire ?
Eh bien, les enquêteurs n'ont pas trouvé d'éléments concrets, et faute de preuves, le juge Tessier, ce même juge d'ailleurs, qui enquête aujourd'hui sur les attentats du 13 novembre, a fini par rendre un non-lieu.
On a évoqué le parcours de Fabien Klein à Alençon, à Toulouse, en Belgique, en Égypte. Alors voyons maintenant ce qui se passe en 2012, c'est-à-dire lorsqu'il sort de prison. Qu'est-ce qu'il a fait après ?
Eh bien, il retourne vivre à Alençon, il reprend une vie presque normale, il fait les marchés et il se lance dans une nouvelle activité, la roquia.
Pardon ? La roquia, c'est quoi ?
Alors, certains vous diront que c'est une forme de médecine prophétique ou de sophrologie, d'autres qu'il s'agit de sorcellerie ou d'exorcisme. L'ami de Fabien Klein, qui l'a vu à l'œuvre, nous en donne sa définition.
La roquia, ça consiste à désenvoûter quelqu'un qui est possédé par le monde invisible. On vient et on te récite des versets coraniques, comme vous voyez beaucoup de psychopathes là qui se trouvent dans les hôpitaux psychiatriques, et une bonne masse d'entre eux sont atteints par le monde invisible.
Et donc Fabien Klein, il aidait ces gens-là ?
Il aidait ces gens-là. C'était quelqu'un qui avait le cœur sur la main, quoi. Chaque fois, s'il pouvait aider qui que ce soit, il l'aidait, quoi.
Bon, le cœur sur la main, on va prendre un peu de distance, si vous voulez bien, Élodie, avec ses propos. Cela dit, Klein, à cette époque-là, il ne fait pas que de la roquia, il recrute aussi de nouveaux adeptes.
Oui, il a de nouveaux amis, des hommes qui travaillent dans des garages automobiles en région parisienne, et notamment dans un garage d'une petite commune du Val d'Oise.
Un garage où on ne fait pas que réparer les voitures.
Selon les services de renseignement, ce garage sert de lieu de prêche pour Fabien Klein. On y regarde aussi des vidéos de l'État islamique. Il y a donc une activité souterraine et c'est toute une bande qui se prépare à partir faire le djihad en Syrie.
Et vous avez justement, Élodie, rencontré la mère d'un des membres de cette bande.
Christine, la mère d'un certain Thomas, un jeune homme timide qui s'est converti, radicalisé au contact de Fabien Klein et qui est parti avec lui en Syrie. Christine a encore bien du mal à réaliser ce qui s'est passé vu le profil de son fils, catholique, pratiquant proche du Front National.
Thomas a été proche des milieux d'extrême droite pendant quelques années, ouais. Un petit peu raciste. Hein. Et sur fond de tout ça, d'un seul coup, il a un beau jour de mai, il m'annonce qu'il va se convertir à l'islam et qu'il a rencontré des gens extraordinaires. À cette époque-là, je ne sais pas du tout que ces gens extraordinaires, c'est Fabien Klein. Non, je suis bien loin de tout ça. Je pense que c'est un coup de tête, surtout. Je pense qu'il s'est trouvé une famille. Je suis loin de Fabien Klein, oui. J'étais loin d'imaginer à quel point ces gens étaient dangereux. Et je l'ai su bien, bien plus tard.
Et s'ils sont aussi dangereux, ces gens, c'est parce qu'ils ont franchi un cap, ils vont rejoindre, ils l'ont décidé, l'organisation État islamique en Syrie.
Oui, dans la famille Klein, c'est Jean-Michel qui part le premier. Fabien, lui, se décide à rejoindre Daesh juste après les attentats de Charlie Hebdo. Il ne part pas seul, mais avec sa femme, ses enfants et même sa mère qui est malade et qui décède au terme d'un interminable voyage.
Mais attendez, Elodie, là, ces personnes, elles sont surveillées, elles sont signalées, elles ont des velléités de départ pour la Syrie et elles peuvent quitter le territoire comme ça sans aucune difficulté.
Eh bien, c'est précisément, Jacques, la question qui taraude Christine, la mère du jeune Thomas.
J'ai vu des photos de mon fils pris par les services de renseignement. Donc, mon fils était surveillé, pris en photo avec ces gens. Et ils ont tous réussi à partir. On sait qu'ils sont partis à plusieurs voitures. On sait qu'ils sont partis en plusieurs convois. Donc, comment on sait qu'ils sont partis à plusieurs voitures et en plusieurs convois? Qu'est-ce qu'on a pensé? On a pensé qu'à Fabien Klein, il serait moins dangereux en Syrie qu'en France?
Vous pensez qu'on les a sciemment laissés partir?
Oui. Oui. Oui.
Oui, alors ce sont des accusations graves hein, qu'on entend. On aurait volontairement laissé ces gens rejoindre Daesh, c'est crédible ça?
Alors officiellement non, hein, les autorités n'ont pas laissé sciemment des Français partir en Syrie. Officieusement, certaines sources policières sont beaucoup moins affirmatives.
Ouais, quoi qu'il en soit, Klein est donc parti pour la Syrie avec sa bande de garagistes. Et depuis l'étranger, eh bien tout ce petit monde ne reste pas inactif.
Oui Jacques, rappelez-vous de cet attentat déjoué en avril 2015. Il devait viser des églises de la région parisienne. Une jeune professeure de fitness avait été tuée et un suspect arrêté, Sid Ahmed Glam. Les enquêteurs pensent que cet homme a en fait été téléguidé depuis l'étranger, notamment par les amis garagistes de Fabien Klein.
Ouais, décidément, ce Klein, il est partout.
Et c'est bien la question de fond, hein, et c'est ce qui met en colère Samia Maktouf, l'avocate qui avait demandé à la justice de s'intéresser à Klein au moment de l'affaire Mera.
Il n'y a pas une seule affaire terroriste que la France ait connue sans que l'ombre de Fabien Klein ne soit pas présent. Et c'est ce qui nous amène à nous poser des questions sérieuses. Le procès d'Artigat a mis en lumière Fabien Klein. On a compris et pour autant, on n'a pas pu le neutraliser pour les familles des victimes. C'est grave.
Et c'est d'autant plus grave, Elodie, qu'on se demande aujourd'hui aussi si Fabien Klein n'a pas été l'un des instigateurs des attentats du 13 novembre.
Oui, en tout cas pour le journaliste Jean-Manuel Escarneau, Klein a forcément été bien plus qu'un porte-voix.
La structure de l'EI, c'est une structure horizontale, rapide, où la chaîne de commandement est très limitée. Donc Fabien Klein, il ne se contente pas de traduire un communiqué, de le lire avec sa voix pleine d'emphase pour nous expliquer comment s'est organisé les attentats du 13 novembre. C'est certainement, selon la DGSE et la DGSI qui travaillent ensemble maintenant, l'un des commanditaires de ces attentats du 13 novembre.
Bon, mais si tout ça est vrai, Elodie, question simple, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas identifié et arrêté plus tôt?
Alors, c'est une question que beaucoup se posent et pour avoir une réponse, je me suis tournée vers le policier Christophe Rouget.
Aujourd'hui, on regarde les faits qui viennent d'être commis à l'aune des nouvelles lois. Or, ces lois-là n'étaient pas en vigueur autrefois. Donc, le prosélytisme n'était pas interdit. Le fait d'aller prendre des cours dans des écoles coraniques en Égypte n'était pas interdit. Le fait d'aller en Belgique n'était pas interdit. Donc, on voit bien que ce qu'ils ont fait à l'époque n'était pas interdit. Et c'est bien ça la difficulté des services de renseignement. C'est que ces gens-là ont été surveillés longuement, mais qu'il fallait pouvoir judiciariser les affaires pour pouvoir les faire condamner.
Autrement dit, aujourd'hui, les choses pourraient peut-être se passer autrement, c'est ce que nous dit ce policier. Maintenant, est-ce qu'on sait ce que font les frères Klein aujourd'hui, Elodie? Ils sont toujours en Syrie?
Oui, selon nos informations, ils ont été repérés il y a quelques mois au nord du pays. Les Klein auraient reformé autour d'eux leur petit clan de Toulouse, avec notamment le beau-frère de Mohamed Mera. Ils travaillent pour la branche média de Daesh. Ils ne sont pas sur le front. Ils seraient considérés comme des vétérans, des inspirateurs, plus que des combattants.
Merci Elodie Guéguin pour cette enquête que vous pouvez retrouver en texte avec des documents exclusifs et en vidéo sur franceinter.fr ainsi que sur le site Facebook de Secret d'Info. Vous pouvez également retrouver votre enquête, Elodie, dans le magazine Sans Froid qui est paru hier en kiosque. À lire d'ailleurs aussi dans ce numéro de Sans Froid, comment Poutine a sauvé Erdogan du coup d'État ou encore une enquête passionnante sur la disparition de la forêt malaisienne, un des plus grands crimes écologiques du XXe siècle.